Aligre FM 93.1. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Aligre FM et vous écoutez Vive le cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz avec à la technique Enrico Mastro Giovanni et Kumba Falquast. Une fois par mois sur le 93.1, en direct de la rue de Montreuil, nous accueillons un historien, un critique, un programmateur ou un chercheur en cinéma pour un petit regard en arrière sur l'histoire des films, l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, nous vous proposons une balade dans des territoires cinématographiques rares, pour reprendre la terminologie du programme proposé par les 23e journées cinématographiques de Saint-Denis, qui viennent tout juste de s'achever, et nous avons le plaisir de recevoir le coprogrammateur Vincent Poli. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors donc le titre de ces 23e journées dionysiennes était « Regard satellite ». J'ai cru comprendre que l'intitulé allait peut-être rester, mais ça c'est possible.
On en discute,
on verra dans les prochaines éditions. Peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous entendez par regard satellite? Si on regarde la programmation, il y a plusieurs satellites en réalité.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai, comme vous le disiez, le titre pourrait rester parce que, en vérité, ce festival des journées cinématographiques, il a toujours eu une approche assez satellitaire du cinéma, avec l'idée de mettre en avant, à partir d'un thème souvent, on pourrait dire, assez politique ou au moins social, mettre en avant des territoires inexplorés du cinéma aux côtés d'œuvres classiques, aux côtés de nouveaux films, de raretés, de films oubliés, films méconnus, etc. Et puis toutes les formes de cinéma, hein, fiction, documentaire, même expérimental, on a tout fait. Même la VR, il y a quelques années. Et du coup, cette année, avec le festival qui s'est un peu agrandi, l'équipe s'est agrandie avec d'autres personnes qui sont venues programmer. On a opté pour ces regards satellites avec l'idée de composer une sorte de carte de l'espace du cinéma avec nos petits satellites un peu partout. Et l'idée de sortir des grands récits du cinéma, en tout cas des formes dominantes de récits, des formes dominantes de fiction, de sortir des grosses frontières de l'histoire du cinéma, en allant voir là où, normalement, hein, selon la norme, on ne fait pas de film, on ne voit pas de film. On peut penser, par exemple, à ce qu'on appelle les banlieues, hein, ce qui ne veut un peu rien dire, mais voilà, on parle souvent des banlieues. C'est notamment un axe de la programmation. Et puis, mettre en valeur des auteurs qui, parfois, ont l'air d'être dans le système et, en fait, en sortent par leur façon de faire leur film, par leur façon de mettre en scène, et qui jouent avec cette norme aussi. Hein. Donc, on peut vraiment être loin de la norme. Et puis on peut aussi flirter avec la norme, la subvertir par l'intérieur. C'est aussi quelque chose qui nous intéressait. Donc voilà, nos satellites, ils sont un peu partout. On espère que ça faisait écho à ça.
Cinéma de la marge un peu. Enfin, cette idée de satellite, ça tourne autour d'un astre. Donc il y a quand même, ça appartient à un ensemble.
Et en même temps, on cherchait des mots qui n'apportent pas une vision binaire du cinéma. On a pensé, hein, bien sûr, à la marge. La marge, par exemple, on se demande tout de suite quelle est la norme? Ça renvoie très vite à une norme, alors que satellite, ça renvoie à un éparpillement qui nous semblait un peu plus fructueux. On avait aussi évoqué le terme regard inversé. Finalement, on se disait, mais si c'est inversé, quel est l'autre côté, quoi? Enfin, est-ce qu'il y a pile et face? Au final, voilà, on a opté pour quelque chose de plus grand, même si on retrouve dans la programmation une séance qu'on a appelée regard inversé, puisqu'il s'agissait là vraiment de mettre en valeur des cinéastes. 4 cinéastes africains qui étaient venus étudier en Europe. Donc là, on avait quand même l'idée d'inversion, puisque eux viennent en Europe filmer les Européens. Alors que dans l'histoire du cinéma, c'est, on le sait, souvent l'inverse.
Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, quand on regarde cette programmation, elle est très éclectique. Il y a des noms qui sont, je pense, inconnus de la plupart d'entre nous. D'autres qui sont malgré tout plus connus. Il y a des satellites plus importants que les autres. Je pense par exemple à votre invité d'honneur, Ken Loach, dont vous montrez certains des films qui sont parmi les films les plus connus, Story We Missed You récemment, La Part des Anges, mais aussi ces films documentaires qui sont un peu plus rares. Alors peut-être déjà très simplement, Ken Loach, pourquoi? Et il se trouve que ça tombait bien puisqu'il est venu à Saint-Denis le jour des grèves, donc c'était quand même, ça résonnait bien avec tout son cinéma et le combat de sa vie.
Oui, c'est vrai que Ken Loach, ça faisait plusieurs années en vérité, hein, qu'on voulait l'inviter. C'est quelqu'un qui était déjà venu à Saint-Denis il y a longtemps, et on voulait reproduire l'expérience qu'avaient pu avoir les spectateurs à l'époque. Et il a été... on a eu de la chance, en fait. Kenoch nous a dit « je peux tel jour ». Et ça s'est tombé en plein pendant le festival, c'était parfait. Et c'est un cinéaste, bon, on le sait, hein, Kenoch est peut-être un des rares cinéastes encore, très connu à traiter de sujets frontalement sociaux. C'est quelqu'un qui a eu une ligne politique toute sa vie, il n'en a jamais dévié. C'est ce qu'on a vu à Saint-Denis, hein, dans ses discours, dans sa prise de parole. Quelqu'un qui a toujours été, on pourrait dire, du côté des ouvriers, mais en fait, qui a filmé parmi les ouvriers, hein, qui se pose vraiment la question de d'où est-ce que je filme, qu'est-ce que je filme, comment est-ce que je mets en scène les classes populaires anglaises. Hein, c'est quand même la première réflexion de son cinéma. Et du coup, effectivement, on a montré plusieurs films classiques de Ken Loach la journée. Et pour le soir, on a voulu justement faire quelque chose d'un peu original. On a demandé à Ken Loach qu'est-ce que lui voulait montrer, en fait. On voulait un peu changer du côté, je sais pas, on aurait mis Caisse, présenté par Ken Loach, ou Le vent se lève. Non, on voulait quelque chose d'un peu plus original. Et on connaît Ken Loach en tant que réalisateur de fiction. On connaît beaucoup moins ses documentaires, qui ont été peu montrés, qui ont même été censurés en Angleterre pendant longtemps. Et Ken Loach voulait montrer ses documentaires. Et donc, on a fait une séance autour de The Navigators, qui est The Which Side Are You On, qui est un documentaire sur le mouvement, sur une grève, la grève des mineurs anglais en 84, qui est un film assez court, qui s'intéresse beaucoup aux mineurs, mais aussi aux enfants des mineurs, qui, eux, vont faire grève dans quelques années, puisqu'ils ils suivent le chemin de leur père, aux femmes des mineurs qui, elles aussi, se mettent en grève, aux champs, en fait, vraiment sur le milieu syndical, en fait, vraiment sur la communauté que crée une grève, la communauté d'idées que peut créer une grève. Et voilà, on était contents de lui donner cette place... Donner cette place à un film qui, je crois, n'avait jamais été montré en France. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, pas montré depuis longtemps.
Un film rare. Et c'est vrai que quand on pense à ces territoires satellites ou à ces marges, même si effectivement vous n'aimez pas trop le terme, et je comprends, on a tendance plutôt à penser au cinéma du Sud. Alors, pour utiliser cette terminologie, c'est vrai qu'ils apparaissent dans la programmation. On pense moins au cinéma américain, et pourtant un cinéaste américain invité aussi présent au festival, un cinéaste assez méconnu, Patrick Wang, cinéaste assez jeune dans sa filmographie, il fait quand même assez peu de films pour le moment. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot, Vincent Poli?
Oui, bien sûr. Patrick Wang, ça renvoyait à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces cinéastes qui, vus de loin, ont l'air d'être dans la norme, et puis dès lors qu'on s'en rapproche un petit peu, dès lors qu'on porte un peu d'attention à leurs films, on se rend compte que finalement c'est quand même assez étrange de faire ces films-là aux États-Unis aujourd'hui. Alors c'est un cinéaste qui a eu la chance de voir ses films sortis en France. Il a fait 4 longs métrages. Et c'est un cinéaste qui malgré tout reste assez inconnu. Et je trouve que c'est une partie un peu inhérente de son travail. C'est un cinéaste qui nous propose des choses hyper intéressantes, très politiques, des thèmes vraiment d'actualité, mais il va jamais les mettre en avant tout de suite. Il y a une sorte de confiance qui est donnée au spectateur d'aller lui-même dénicher dans ses films on peut penser des thèmes tels que l'homosexualité dans son premier long métrage, la mort, la gentrification, la communauté artistique, la famille, la crise de la famille, le non-dit. Des thèmes assez lourds, en fait, hein, mais qu'il va agencer de manière à ce qu'on ait l'impression sur le coup de voir un film plutôt accessible états-unien, et puis en fait on se rend compte que c'est d'une finesse folle, c'est très bien écrit, les acteurs sont tous super, c'est un cinéaste new-yorkais, mais ses films ne se passent pas à New York, c'est vraiment un cinéaste de la grande banlieue américaine. Il y a quelque chose de, non pas d'universel, mais c'est un cinéaste qui vise en fait assez grand pour moi. Et je le vois comme un héritier, sans le côté religieux, je le vois comme un héritier un peu de Frank Capra. Ça pose vraiment des questions de démocratie, de rapport, de l'être seul à la société, en général, au groupe, hein, rapport au groupe, rapport à la loi. Et voilà, c'est un cinéaste avec... On trouvait qu'il avait été un peu ignoré en France, et on s'est dit que c'était le moment de lui donner, faire un peu la lumière sur son travail. Qu'on trouve passionnant.
Et par exemple, si on prend un de ses films, en quelques mots, ça parle de quoi et qu'est-ce qu'on y voit?
Je réfléchis lequel. Je pense que le plus évident, ça va être ces deux derniers films qui sont en fait un long film mais qu'il a découpé en deux parties. C'est Bread Factory. Et Bread Factory, c'est l'histoire quasiment vraie d'un centre d'art dans une petite ville de l'État de New York. Et ce centre d'art où on peut voir des films, on peut voir du théâtre, où les salles ne sont pas toujours pleines, hein, parce que la réalité des cinémas, c'est que c'est pas toujours plein. C'est des lieux où on va, des fois on n'y va pas. C'est des lieux qui sont quand même face à beaucoup d'aléatoires. Ce lieu est menacé par la gentrification et la création juste à côté d'un centre d'art contemporain qui va venir leur piquer toutes leurs subventions. Et on voit dans Bread Factory comment la communauté s'organise, parfois se dissout hein, aussi autour de ce centre d'art. On voit des conseils d'administration, on voit comment la presse locale envisage cette disparition du lieu d'art, on voit comment les artistes réagissent. Et c'est pas du tout un cinéma utopiste, hein. Il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des rencontres qui ne se font pas entre les personnages, mais en même temps, c'est un cinéma qui respecte vraiment ses personnages à 1000%, même ceux qui se trompent, hein, même ceux qui ne vont pas soutenir le bon projet. Patrick Wang va leur donner, non pas des raisons, mais une noblesse de caractère. Et pour moi, ça renvoie quand même une certaine idée du cinéma américain. Je parlais de Frank Capra, un cinéma qui s'est dit, bon, bah, la société américaine, elle n'est pas évidente, hein, on la connaît tous un petit peu, ne serait-ce que par les médias, mais on va quand même, bah, on doit faire communauté, on doit y croire, donc on doit essayer de sauver des choses, on doit essayer de dialoguer. C'est quand même, voilà le maître mot du cinéma de Patrick Wang, c'est le dialogue. Hein. Et souvent, les gens ne se disent pas la vérité, et tout prend du temps, et on s'enlise dans les problèmes, dans les drames. Et moi, je trouve ça assez passionnant. Et voilà, c'est un cinéma qui ne joue pas du tout la carte de la radicalité. C'est plutôt de la confiance au spectateur.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Il joue pas la carte de la radicalité, c'est-à-dire dans sa forme,
Oui,
dans
dans
son
sa
film?
forme, les sujets, comme j'ai dit, ne sont pas toujours mis au premier plan. Voilà, c'est pas des films, pardon, qui s'affichent comme des pamphlets politiques. Mais en fait, une fois qu'on a vu 4 heures sur la Bread Factory, on a tout compris de la politique artistique dans les villes de taille moyenne, disons. C'est un peu d'Emmanuel, quoi. Il y a tout. Sauf qu'au passage, on a découvert beaucoup de monde, on a rigolé, on a pleuré. Voilà.
Il est connu à New York, enfin aux États-Unis.
Eh ben non, il est plutôt connu en France, mais ce qui est assez étrange, c'est que par exemple, son deuxième long métrage, Les Secrets des Autres, avait bien marché en France. Quand même un cinéaste inconnu qui fait à peu près 40 000 entrées. Et puis j'ai l'impression que ça retombe, quoi, l'intérêt retombe. Et si je voulais un peu creuser, pour moi, je peux relier ça à son cinéma, mais c'est pas quelqu'un qui va essayer de se mettre dans des cases. Donc en fait, il est pas très bankable, il essaie pas de se vendre. Par exemple, donc il s'appelle Patrick Wang, il est américain, un né au Texas, avec des origines taïwanaises. Son premier film parle de ça, puisqu'il interprète le rôle principal d'un homme en couple avec un autre homme. Ils ont un enfant, le père de l'enfant décède, et donc Patrick Wang se retrouve avec un enfant à charge qu'il veut éduquer, hein, pas de problème. Mais la famille du défunt lui reprend, et le non-dit, c'est parce que tu es homosexuel, et qu'un homosexuel seul avec un enfant, ça se fait pas. Parce que tu es un homme asiatique avec un enfant qui n'est pas asiatique, ça ne se fait pas. Et en fait, il faut 2 heures pour que ça sorte, ça, pour que les gens osent dire ces choses-là. Il y a beaucoup de non-dits en fait. Et je trouve ça encore plus beau, quoi. Ça met du temps à venir et c'est vraiment très fort. Et donc Patrick Wang n'utilise aucun de ces éléments pour... Enfin, son prochain film sera différent, en fait. C'est vraiment un cinéaste qui... Chaque film, ça change. C'est assez passionnant, c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup d'autres choses que le cinéma. Je pense que ça nourrit son œuvre. C'est quand même un ingénieur à la base, qui a fait le MIT. Puis qui a arrêté pour faire du théâtre et maintenant qui fait des films quasiment autoproduits. Et voilà, et qui malheureusement n'est vraiment pas très connu aux États-Unis. Il est presque plus connu en France. Il a quand même eu un film à Cannes. Et je pense que ça tient sa volonté de ne pas être bankable d'une certaine façon. Mais j'espère qu'on va quand même le reconnaître sa juste valeur. Et avec le prochain film, j'espère, ça serait bien quand même.
Il fait un film qui sort prochainement où il y a.
Il a des projets, mais il y a pas de tournage en cours. Mais c'est quelqu'un qui écrit beaucoup de choses, qui traduit de la poésie dans plusieurs langues, parce que par ailleurs, il est brillant, il apprend des langues pendant le confinement. c'est quelqu'un dont tous les projets sont passionnants. Mais malheureusement, il n'y a pas de film, en tout cas pas pour 2023.
Vous êtes allé le rencontrer à New York, vous lui avez proposé de venir à Saint-Denis. Quelle a été sa réaction quand vous lui avez dit « Tiens, tu pourrais être un invité de ce festival en banlieue parisienne ?»
Oui, tout à fait. Je suis allé le voir à New York puisque j'avais loupé les séances en sa présence à Paris. Moi, j'ai découvert son cinéma un peu sur le tard, comme beaucoup de monde, je pense, au moment de la sortie de Bread Factory. Donc, on est en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et sa réponse a été « Ok ». C'est vraiment quelqu'un qui est content de partager son œuvre, qui aime discuter avec le public, qui aime être surpris par les réactions du public. Et quelqu'un, encore une fois, de très discret. Et puis, en fait, dès qu'on se met à discuter, on se rend compte que ça carbure. C'est vraiment des réponses très construites, très intéressantes. Un discours sur les acteurs assez passionnant aussi. Enfin, je recommande.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et toujours avec Vincent Poli, le coprogrammateur des journées cinématographiques dionysiennes, territoire satellite, c'est ça hein,
Regard satellite.
Regard satellite, donc le thème de cette année, un thème qu'on imagine récurrent à l'avenir. Peut-être un mot sur ce travail de programmation. On sent que vous allez piocher à droite, à gauche, à la fois dans l'histoire du cinéma et dans un cinéma plus récent, dans des territoires cinématographiques très, très différents. Comment se fait ce choix? Pourquoi Patrick Wang? Pourquoi telle autre personne?
Je pense qu'une programmation de festival, en l'occurrence, on parle d'un festival non compétitif, donc on n'a aucune obligation de montrer des nouveaux films et de les faire s'affronter, ce qui est assez reposant, hein, je dirais. Cette programmation, elle n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est des envies qu'on a depuis plusieurs années, parfois, de mettre en avant des cinéastes qu'on juge trop méconnus, des cinéastes qu'on trouve actuels. Mais bien sûr, on essaye de répondre, je ne veux pas dire un cahier des charges, mais on essaye de répondre aux contemporains, donc à l'actualité, des films qui font écho à cette actualité. Et puis en même temps, le plaisir qui je pense est très sain de faire des pas de côté, de l'inattendu, des choses vraiment inconnues, ou revoir des classiques. Enfin, ça fait pas de mal. Hein, donc, et que tout ça s'entrechoque un petit peu dans une perspective assez fructueuse. Et en l'occurrence, sur ce festival, nous sommes trois personnes à programmer. Donc moi-même, Laurence Raymond, et Laurent Calonnet, qui est aussi le directeur du cinéma à l'écran où se passe la majorité du festival. Et donc, c'est un travail où on se réunit et chacun donne ses idées. Et bien sûr, on s'est renseigné au préalable sur qui est disponible, quel cinéaste n'est pas trop occupé en ce moment. Bon, des fois, on lance des bouteilles à la mer. Ken Loach, on n'était pas sûr qu'il dise oui. On était très contents de sa réponse. Des fois, on est sûr que la personne va dire oui. Et puis après, on pourrait creuser, mais c'est aussi lié à des questions monétaires. Hein. Combien coûte un film? Parce qu'on doit bien payer des droits des films. Est-ce que le film a des sous-titres? Ça coûte très cher de faire des sous-titres. Donc, à quel point est-ce qu'on a envie de le montrer? Est-ce que ce film qu'on va payer cher, est-ce qu'on est sûr de pouvoir mobiliser un public dessus? Et cette année, on a aussi donné beaucoup de cartes blanches à des invités. Donc, par exemple, Ken Loach. Mais l'idée, c'est aussi vraiment d'accueillir des regards... Bon, je ne vais pas dire satellite, mais de laisser la chance à ces artistes d'eux-mêmes exprimer leur goût, hein, tout simplement. Voilà, et c'est comme ça qu'on construit une programmation. On essaie d'avoir de tout.
Oui, et des artistes.
Sans que ce soit non plus quelque chose de tiède.
Oui.
Avec quand même des choix tranchés. Et voilà.
Et des artistes qui ne sont pas toujours que des cinéastes. Je pense à l'auteur de BD brésilien, par exemple, Marcelo Quintanilla, oui. Que je ne connaissais pas, mais qui peut-être en dire un mot, et qui est venu, lui, et qui a présenté des films. Il a choisi plusieurs films qu'il est venu présenter. Pourquoi un auteur de BD dans un festival de cinéma?
C'est vrai que Marcelo Quintanilla, il a gagné le Grand Prix au dernier festival d'Angoulême. Et en l'occurrence, c'est une proposition qui venait de donc Laurent Calonnec, le directeur du cinéma à l'écran. Et c'est quelqu'un qui, dans ses entretiens, mais ça se voit aussi dans sa bande dessinée, hein, La BD s'appelle d'ailleurs Écoute, je lis Marcia. Vous pouvez la trouver un peu partout en librairie. C'est quelqu'un qui ne se cache pas d'influence cinématographique. Et puisqu'on avait beaucoup de... On avait une programmation assez tournée vers le Brésil. Ça renvoie encore une fois à Laurent Kalonek, donc, directeur du cinéma qui aime beaucoup le cinéma brésilien. On a voulu lui donner l'occasion de montrer des films brésiliens qui étaient cultes pour lui. Typiquement des films que moi je ne connaissais pas.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Lucio Falaflavio d'Hector Babenco, qui est un film qui était quand même très rare pendant très longtemps et qui, là, bénéficie d'une version restaurée par sa fille, qui suit beaucoup ça de très près. Donc c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de mettre en avant un nouveau travail de restauration. Et si je ne m'abuse, il n'y a pas encore de distributeur pour la France, donc c'est vrai que c'est aussi...
Oui, non, je crois pas.
Ouais, c'est aussi l'occasion de voir ça.
Et puis l'idée, c'est aussi de... sortir un peu de son confort. Des fois, moi, j'ai ma cinéphilie, j'ai entre guillemets mon public, hein, je vois quel type de cinéphile je vise, et je me rendais compte en parlant avec des amis d'amis de ces films brésiliens qu'il y a plein de gens intéressés par ça et qui connaissent déjà en fait ces films, qui connaissent les auteurs, qui rêvent de voir ces films. Moi, je connaissais pas ces films, et ça prouve bien qu'il y a plusieurs, que la cinéphilie c'est pas un seul bloc, quoi. Et qu'il y a plusieurs publics. Donc l'idée, c'est toucher ces publics différents, en espérant que ça se mélange aussi à la fin. C'est quand même un peu l'idée. Voilà, satellite, mais sans faire de blocs trop séparés, si possible. C'est un peu notre utopie.
Mais ça renvoie à votre travail de coprogrammateur, puisqu'en étant à trois, vous venez, j'imagine, chacun avec votre cinéphilie, vos tropismes, le type de film que vous aimez bien et qui, j'imagine, est plutôt identifié des autres coprogrammateurs aussi. Se dit, ah tiens, ça c'est un film pour telle personne, etc. Ouais. Ça fonctionne comment ? C'est de la complémentarité ?
Oui, c'est ça. Je ne pense pas que le public ne se rende compte de ça, et c'est normal. Hein. On ne connaît pas tous les membres, tous les spectateurs. Mais oui, chacun vient avec ses goûts, ses propositions. Et l'idée, c'est de se compléter. Il y a bien sûr des endroits où on se retrouve. En l'occurrence, quand moi, je propose d'inviter Patrick Wang, nous sommes tous trois admirateurs de son travail. Hein. Mais il y a vraiment des choses qu'on ne connaît pas chez l'autre, quoi.
Par exemple, qu'est-ce qui est typiquement Vincent Poli dans cette programmation ?
Patrick Wong, déjà. Non, mais on peut aussi penser au cinéma de Marie-Claude Treilloux, mais qui, par ailleurs, est aussi apprécié de son programmateur. Mais c'était un désir que j'avais depuis longtemps de l'inviter. Et c'est agréable d'inviter quelqu'un sans qu'il y ait d'impératif d'actualité. Alors, on peut toujours en trouver un film qui ressort, mais on n'est pas obligé de le faire la semaine même où le film ressort, quoi. Ça peut aussi être plus tard. D'ailleurs, de toute façon, les films mettent du temps à circuler. Les films ressortis passent quand même très globalement à Paris. Hein. Donc, c'est un luxe. Et c'est le luxe de ces festivals, justement, de ces moments à part. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi un festival, il y a des films tous les jours au cinéma, il y a beaucoup de films qui sortent, il y en a une quinzaine par semaine, il y a beaucoup de salles à Paris, etc., en région parisienne. Mais voilà, le festival, c'est justement le moment où on met un peu le pied de biche, plutôt on met le pied dans la porte, pour laisser rentrer des choses inattendues, quoi.
Marie-Claude Treilloux, la réalisatrice de Simone Barbès ou La Vertu, qui c'est peut-être son film le plus connu, mais aussi d'un petit cas de conscience, qui effectivement était ressorti par La Traverse il y a quelques mois maintenant. Cinéaste, quand on découvre ses films, on se dit... c'est fou que cette cinéaste aussi importante soit aussi méconnue. C'est vrai que c'est peut-être important de le rappeler. Alors on commence effectivement à se souvenir davantage de Marie-Claude Treilloux aujourd'hui qu'il y a quelque temps. Peut-être des raisons en fait.
Mieux vaut tard que jamais. Hein.
C'est ça. Mais vous l'avez fait dialoguer, ça c'est intéressant, ce que vous me disiez tout à l'heure, avec une autre cinéaste.
Pour le coup, vraiment oubliée. Ouais, en fait, déjà l'histoire du cinéma français, c'est quand même une longue liste de femmes cinéastes oubliées. Qui ont fait un film, deux films, trois films parfois, et qui ont été empêchés, je pense, par des raisons systémiques, hein, de continuer le cinéma. Et pour moi, Marie-Claude Treilloux, c'est vraiment une grande cinéaste française qui fait encore des films, avec très peu de moyens, mais qui continue de faire des films. Et on a aussi invité, du coup, une cinéaste américaine qui s'appelle Franza Woods. Et alors là, on est vraiment dans un cinéma qui a été longtemps oublié, puisque Franza Woods est une femme afro-américaine qui a fait deux courts-métrages en 79 et 81. Deux courts-métrages qui, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas été vus, et plutôt qu'on n'a pas su voir. Les revues importantes de l'époque n'ont pas su les voir. Donc c'est un film qui est sorti, qui a dû être montré un peu à New York, etc., dans un cadre très précaire. Hein. Une femme noire qui fait des courts-métrages, ça ne sort même pas au cinéma, donc où est-ce qu'on peut voir ça? Je ne saurais pas trop vous répondre, peut-être dans les facs. Et on a eu ces dernières années beaucoup de rétrospectives, notamment aux Trois Continents à Nantes, sur le travail des cinéastes noirs américains. Alors, ça peut paraître bizarre de relier des cinéastes par ce trait commun, mais je pense que c'est quand même une première étape hein, de refaire revivre les films, de dire il y a eu ça, de faire des recherches, de rassembler, de voir si les artistes sont encore là, s'ils font encore des films ou pas, pour ensuite voilà, les laisser un peu prendre un nouvel envol quoi. Et du coup Franza Woods a été redécouverte à cette époque là à sa propre grande surprise hein. Elle a appris assez tard que des programmateurs la cherchaient depuis 2 ans, ils n'arrivaient pas à la joindre. Et elle, en fait, elle vivait en France hein, depuis les années 80, dans le sud de la France. Et on a voulu la faire dialoguer avec Marie-Claude Treilloux. Marie-Claude Treilloux, elle, a continué à faire des films, mais elles ont un début de carrière, si je puis dire, qui est un peu similaire au sens où, pour ces deux personnes, il n'y avait aucune évidence dans le fait de passer à la réalisation. Et ça a été à chaque fois un acte un peu de violence. Hein. Enfin, vraiment, il fallait s'imposer, s'affirmer. Elle-même parlait d'effraction. Voilà. Vraiment casser la porte du cinéma. Souvent, c'est des histoires de collectif. Si on pense à Marie-Claude Treilloux, c'est avec La Diagonale, fondée par Paul Vecchiali, voilà, qui nous a quittés il y a peu de temps. Mais un collectif de cinéastes qui pratiquait une sorte d'horizontalité où chacun était ingénieur son ou chef-op ou acteur dans les films des autres. Et voilà, on voulait mettre un peu en commun ces deux parcours, ces deux visions du cinéma. Et les deux films de Franza Woods sont magnifiques. Quand c'était revu à New York en 2016, il y avait un critique, Richard Brody, qui est au New York, qui travaille au New Yorker, qui comparait son travail à Chantal Akerman. En mieux, ce qu'il disait. Bon, sans vouloir trop comparer avec Akerman, c'est vraiment un cinéma assez unique. Et c'est un cinéma qui parle, par ailleurs, de femmes invisibilisées. Donc, dans le premier film, son premier court-métrage, c'est elle-même qui joue le rôle d'une jeune femme qui, en fait, veut se suicider. C'est un film très ironique, très drôle, où elle veut se suicider, mais se dit « Mais attends, on va me retrouver dans ma robe de nuit toute pourrie parce que j'ai pas de sous, dans mon vieil appartement tout moche. » Et le deuxième film est un documentaire qui fait le portrait de Fanny, une femme noire, femme de ménage dans une salle de sport d'un quartier déjà gentrifié new-yorkais. Et on voit vraiment le rapport entre ces corps blancs, musclés, lisses, et cette femme qui travaille tout le temps, qui a une vie très compliquée, maladie, etc. Et c'est vraiment deux très beaux films. Et on ne va pas regretter qu'elle n'ait pas fait de film. Hein. On ne va pas lui dire, Franza, c'est dommage que tu n'aies pas continué, parce que voilà, la vie est comme elle est. Mais on voit à quel point on n'a pas soutenu certaines choses et pas su voir, surtout.
Et Marie-Claude Treilloux, elle aussi fait un cinéma plutôt autobiographique, ou en tout cas qui parle, pour certains de ses films, de son expérience personnelle, des rapports de classe aussi, qui sont toujours amenés de manière assez fine. Qu'est-ce qu'elles se sont dit finalement lors de cette discussion ? C'est pas évident de se dire on va faire se rencontrer deux personnes, même si elles se ressemblent beaucoup, elles ont peut-être pas grand-chose à se dire.
Alors il s'avère qu'elles sont plus ou moins voisines déjà, vers Carcassonne, donc ça jouait un petit peu dans l'idée de la proposition.
C'est quand même très improbable.
Oui, mais ça arrive. Et il y avait cette idée d'effraction qui revenait. Et surtout chez ces deux cinéastes, d'ailleurs on pourrait relier ça un peu à Patrick Wang, mais d'évoquer des thèmes très forts, très lourds, la sexualité, le féminisme, mais sans jamais le mettre au premier plan. C'est des cinéastes qui finalement, je pense, n'ont jamais vraiment accepté le côté la politisation avant tout. C'est vraiment, je veux faire du cinéma, c'est mon film, c'est des films qui sont foncièrement politiques, mais qui ne voulait pas se rattacher à une doxa, par exemple. Et vraiment, Marie-Claude Treilloux, c'est un cinéma de la liberté. C'est un cinéma d'autocritique aussi. Hein, dans Un petit cas de conscience, elle s'autocritique en une artiste qui serait devenue un petit peu embourgeoisée, puisqu'elle soupçonne un ami étranger d'avoir volé quelque chose chez elle parce qu'il est étranger, qu'il est ouvrier, payé au black, et qu'il dort peut-être dans une caravane, etc. Beaucoup de signaux qui envoient l'idée d'une vie un peu errante. Et dans ce film, elle se remet beaucoup en question, quoi. Voilà, c'est vraiment une sorte d'indépendance qu'elles avaient toutes les deux en commun.
On va continuer de parler des journées cinématographiques dionysiennes avec son coprogrammateur Vincent Poli dans un instant. On va d'abord faire une petite pause musicale. On va s'écouter La Zone de Bernard Lavilliers.
Sortez des nasses, sointez des pioles en sanguine, martelez les fronts et les mains, glissez des ombres assassines, sortez des ongles sombres venins. Marchez sur les trottoirs honnêtes, infestez les parcs et les trains. Forcez les portes et les fenêtres, rincez-vous donc dans le parfum. Et sur des tombes bien proprettes, riez beaucoup et pissez bien. C'était de braves gens honnêtes, bien installés dans le chagrin. Nous sommes des loups avides de fête. C'est nous qui fauchons le butin. Une crinière sur la vitesse et le vide autour de nos mains. Nous visitons notre destin. Nous sommes nés sur des planètes que vous nous construirez demain. Nous sommes longs, longs et flexibles, rapides et sûrs, sûrs et certains, que le soleil de l'impossible va nous anéantir demain. Et nous bronzons sous son regard, notre terre n'est plus qu'une cible. Il n'y a pas d'issue possible, il n'y a pas d'issue possible, et nous fonçons dans le brouillard. Notre musique nous ressemble, on la consomme comme un béguin. Elle roucoule, elle déconne, elle éjacule, elle fait du bien. Et dans la nuit de l'Amazone, la solitude. Nos enfants ne vivront pas vieux. Ils sont très beaux, mais ils s'effacent. Ils ne rient pas avec leurs yeux. Ils ne s'arrêtent pas, ils marchent vers le jour de la mise à feu.
De retour sur Aligre FM, Perspective, Vive le cinéma. On parle toujours des journées cinématographiques dionysiennes avec Vincent Poli et on vient d'entendre une musique de Bernard Lavilliers qui s'appelle La Zone et qui est une musique en réalité qu'on entend dans un des films présentés au Festival de Saint-Denis, qui a été présenté au Festival de Saint-Denis. Un film qui appartient à une série de films assez rares, voire très très rares, mais qu'on a redécouvert notamment récemment à l'occasion d'une initiative du Centre Pompidou, la cinémathèque idéale des banlieues du monde. C'est des films du collectif Mohamed, un collectif de jeunes gens de banlieue qui, un jour, dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, ont pris une caméra et ont filmé leur quotidien. Vincent Pollier, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un peu cette étrange histoire ?
Bien sûr. Le collectif Mohamed, c'est un collectif qui s'est fondé à la fin des années 70 et avec l'idée de donner aux habitants des quartiers, en l'occurrence dans le Val-de-Marne, à Alfortville et Vitry-sur-Seine, leur donner des caméras, enfin, du matériel de cinéma, pour qu'ils racontent eux-mêmes leurs histoires. Et de ce collectif, on a trois films aujourd'hui qui ont refait surface récemment. Effectivement, ça fait, pendant longtemps, ils ont été oubliés. Et on les a montrés à Saint-Denis. Et en les voyant, on se rend compte que, bon, déjà, c'est assez passionnant hein, de voir, si vous voulez, la vie dans les quartiers et comment eux-mêmes la filmaient. Mais voir que cette deuxième génération, hein, ces enfants de personnes immigrées en France, on n'a pas d'image de cette époque, on n'a rien. Et comme vous le disiez tout à l'heure, maintenant, quand on parle de films de banlieue, on a toujours l'impression de repartir à zéro. Donc la banlieue serait un sujet un peu immuable, elle n'aurait jamais changé, c'est toujours la banlieue et ses problèmes. Et donc voilà, c'est vraiment une expérience assez unique de voir les films du collectif Mohamed qui ont été tournés dans un dénuement financier assez total, hein. Et donc ces trois courts-métrages qui s'appellent Le Garage, Ils ont tué Kader et Zoun Immigré sont vraiment passionnants et on voit comment ces jeunes de quartier essayent de répondre à l'image que déjà les médias renvoient d'eux. Donc c'est un récit contre un autre, d'une certaine façon.
Oui, voir Ils ont tué Kader aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'écho avec... des sujets dont on parle dans l'actualité, avec 2005, c'est assez intéressant de voir que finalement, c'est déjà aussi un film qui questionne la représentation médiatique de la banlieue, quoi. Parce qu'il y a tout un passage avec des journalistes qui sont présents et qui...
Oui, comment qui les médias sont à l'affût de toute, je sais pas comment dire, de banlieusardie, quoi, qui pourraient nourrir leur canot télé... Et comment ils vont même manipuler l'information de façon même parfois inconsciente, je pense. C'est une méthode de travail. On va chercher le sensationnel. Malheureusement, on peut se dire que les médias ayant pris encore plus de place aujourd'hui, est-ce que ça a empiré ? En tout cas, ça repose une question qui est un peu éternelle. Hein. Contrairement à la banlieue qui est toujours en changement, voilà, qui a toujours été quelque chose d'autre d'une année à l'autre, la question qui reste, c'est comment est-ce qu'on représente et comment est-ce que voilà, on fait face à une vision dominante. Hein. Encore une fois, les regards satellites, c'est sortir de ce regard dominant, c'est sortir d'une façon de raconter l'histoire qui n'admet pas de contraire, qui n'admet pas d'ambiguïté. Voilà, c'est ce qu'on voulait montrer avec les films du collectif Mohamed.
Et certains membres de ce collectif étaient présents ?
Oui, alors il y avait un membre du collectif, c'est Mohamed Salah Azouzi, qui nous disait que très malheureusement, les trois quarts des gens qu'on voit dans ces films sont décédés depuis. Hein. Il y a le sida qui est arrivé, la drogue aussi qui a été très présente dans ces quartiers. Et donc Mohamed Salah Azouzi, lui, après ces films-là, il n'a pas du tout pu continuer dans le cinéma. Hein. Donc c'est des films qui n'avaient même pas vocation à être vendus. Et bon, il est devenu ouvrier. Et depuis quelques années, il accompagne cette redécouverte, des œuvres du collectif qu'on aurait pu complètement oublier encore plus longtemps. Hein. Il a fallu le travail de certains artistes, de certains programmateurs qui... vraiment se posent la question et se disent mais pourquoi est-ce qu'on n'a rien sur cette époque ? On n'a rien, on a des docus sur les premières vagues d'immigration en France, on a des fictions des années 90 sur les banlieues, hein, des bons films comme des très mauvais films, mais on n'a rien sur cette époque-là. Quoi.
Et comment est-ce que lui vit ce retour, le fait qu'on s'y intéresse maintenant
Lui, il est très heureux, hein. C'est quelqu'un qui vit toujours en plus à Alfortville. Ouais, il est très heureux, mais je pense qu'il y a aussi une part de mélancolie là-dedans. Quoi.
Est-ce que montrer ces films à Saint-Denis, justement, c'est-à-dire parce qu'ils étaient montrés avant, mais à Pompidou, au centre de Paris, là maintenant ils sont montrés effectivement à Saint-Denis, en banlieue.
Je pense que c'était un peu leur but premier, c'était quand même d'être montrés dans ce qu'on appelle les quartiers, même si après on ne fait pas de tri à l'entrée de la salle de cinéma, hein, chacun vient voir ce qu'il veut. Mais oui, c'était un peu la fonction première. Et, enfin, il y avait des jeunes dans la salle ce jour-là, qui étaient venus avec une professeure, il me semble. On sentait que les films les bousculaient et leur faisaient aussi un petit peu peur, parce que je me souviens d'un jeune homme qui a dit « Mais aujourd'hui, rien n'a changé. » Bon, c'était il y a 40 ans quand même, les films du collectif Mohamed. Donc, bah ouais. Et bon, ce que leur répondait le fondateur du collectif, c'est que faut du temps, que certaines choses avancent en très bien, certaines choses, certains aspects peuvent aussi. On peut aussi régresser sur certains aspects, c'est une lutte permanente. C'est une lutte par l'image, quoi. Mmh. C'est pas une lutte facile, je pense.
Mais ça, en tant que programmateur, c'est une question qu'on se pose aussi, du lieu qu'on programme, géographiquement, je veux dire, le fait que ce soit à Saint-Denis. Alors là, le festival n'est pas qu'à Saint-Denis, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de séances à Saint-Denis, mais il y en a eu aussi dans d'autres villes, il y en a même eu aussi à Paris, à l'Archipel, si je dis pas de...
Oui, il y avait une séance à l'Archipel. Bah, carrément. Et en même temps, sans... Moi, je pense qu'il y a un risque à peut-être trop vouloir mettre dans une case sociologique le public d'une ville. En l'occurrence, je viens de Saint-Denis, donc c'est aussi une ville que je connais très bien. Mais je pense que le rôle du programmateur, c'est aussi de surprendre. Enfin, si on va voir les films de... Enfin, si on donne que aux jeunes de banlieue des films sur la banlieue, je pense qu'en fait, ça peut être aussi un frein à l'intérêt pour le cinéma qu'on pourrait développer chez eux, quoi. Donc, je trouve ça intéressant, et c'est le rôle du festival de varier, quoi, d'avoir des films qui s'opposent. Ça fait aussi du bien, je pense, de refuser un film, d'être un peu violenté, hein, bien sûr, dans la mesure du raisonnable, d'être un peu violenté par un film, de dire c'est pas ça que je veux voir, c'est pas comme ça que je vois le monde. Je pense que c'est le but du festival, mais c'est un but qu'on va essayer de pas trop avouer. Sinon, moi, en tant que spectateur, je me sentirais un petit peu téléguidé par une programmation. J'ai envie d'être pris par surprise, je pense.
Justement, comment on devient programmateur ? C'est vrai que vous travaillez aussi au festival de Belfort, à la programmation, un festival du coup compétitif, films
très différents,
très différents, mais qui sont toujours sur une ligne un peu vraiment de découverte, pas de redécouverte, mais de découverte. Comment est-ce qu'on devient programmateur ? Certains nous écoutent et qui ont des velléités.
C'est une bonne question. C'est vrai que c'est un métier dont on ne vous parle pas quand vous êtes lycéen, même étudiant, parce que c'est un métier pas très clair finalement. C'est programmer quoi ? Une salle ? Programmer un festival ? C'est pas pareil. Programmer dans un musée qui montrerait des films, c'est encore autre chose. Comment on y vient ? Moi je dirais par la cinéphilie, qui a un mot un peu tombé en désuétude, mais je fais quand même partie de ces gens qui pensent que c'est important de voir beaucoup de films et d'avoir un attrait pour le cinéma au contemporain. Mais le cinéma au contemporain, il se nourrit du cinéma aussi, du vieux cinéma, du cinéma classique. Et de faire constamment l'aller-retour entre les deux, c'est ce que je trouve le plus fructueux. Et en fait, ça touche un peu à ce qu'on disait sur le collectif Mohamed, c'est de voir comment est-ce qu'on met en scène le monde, quelles formes ne sont plus usitées, quelles formes ont été surexploitées, quelles sont les formes du moment, et ça dépasse le cinéma au final. L'idée, c'est pas juste de voir des histoires qui durent 1h30, qui est amoureux de qui va tuer qui. À chaque fois, c'est effectivement le plaisir de suivre une histoire et en même temps beaucoup plus. Et donc, la programmation, moi j'y suis arrivé par l'écriture aussi, de textes critiques. Et puis finalement, je pense qu'il faut sauter le pas, faut fonder un ciné-club, faut se dire tiens, je vais faire une séance, je vais dire aux gens de venir, faire un débat et. Et puis voilà quoi. C'est assez chronophage, ça nécessite de se tenir au courant, de voir beaucoup de choses. On peut aussi se spécialiser, hein. Il y a plein de programmateurs spécialisés qui voient absolument pas tout. Mais si on aime trop le cinéma, ça peut être dangereux. Il y a trop de films.
Oui, oui. Le moteur, c'est effectivement la cinéphilie, la curiosité. Mais est-ce que vous, par exemple, à Saint-Denis, est-ce que vous arrivez à programmer vraiment exactement ce que vous voulez ? Alors, vous nous disiez les difficultés techniques liées au fait que les copies soient disponibles, accessibles, etc. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il s'agit aussi de, parfois de convaincre les autres, de se dire que ah, ça j'aurais bien aimé mais ça fonctionnera pas. Est-ce que vous avez par exemple des regrets, des choses que vous auriez aimé faire et qui n'ont pas été possibles?
À Saint-Denis, c'est un lieu où on a beaucoup de chance, où voilà, le festival ayant l'histoire qu'il a, c'est un lieu de liberté en fait. Après, on a aussi on a du bon sens. Si j'adore un film complètement inconnu, je vais réfléchir à où le placer. Est-ce que je veux vraiment le placer? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faudrait pas attendre un autre moment? Est-ce qu'il faudrait pas attendre que ce film ressorte en présence du cinéaste? C'est aussi des questions un peu tactiques, hein, d'actualité. Mais voilà, c'est un lieu où moi j'ai pas de regrets sur les gens que j'ai pu inviter et ceux que je... Non, après, bien sûr, si on nous donnait un budget limité, on pourrait inviter aussi des stars qu'on admire, des stars américaines, etc. Mais non, j'ai pas de regrets. J'aimerais faire la lumière un peu plus sur certaines cinématographies, typiquement le cinéma d'Asie, qu'on quand même plus très en vogue. On voit plus trop de films chinois, on voit plus de films de Hong Kong, par exemple, Taïwan. Même le cinéma japonais, on le voit plus trop. Mais ça, ça répond à des contingences vraiment d'accessibilité au film, de disponibilité des copies. Et là, on n'est pas assez pour... il ne suffit pas de nous pour tout changer, quoi.
Est-ce que vous avez un retour du public? Parce que là, c'est un festival qui est aussi très lié à un cinéma, l'écran de Saint-Denis, qui a aussi son public, ses habitués à l'année. Est-ce que on vous dit, oui, tiens, ça serait bien de programmer ça, ou ça, j'ai moins aimé, ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une discussion comme ça avec le public ou pas?
Oui, l'idée, c'est quand même que le festival soit un temps du cinéma et quelque chose de complètement déconnecté hein, de l'actualité cinématographique. On fait quand même des avant-premières.
Oui, mais il y a le film de Kirill Serebrennikov, voilà. Par exemple. La femme de Tchaïkovski.
Ou le film de Laura Poitras en ouverture.
En ouverture, ouais, exactement. En sa présence.
Tout à fait. Mais c'est aussi le moment de mettre des films qu'on ne mettrait pas dans l'année. Voilà, c'est clair. Hein, les cinémas se relèvent lentement du Covid. On a un public qui... Alors, je ne suis pas exploitant de ça, donc je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais on a un public qui est très imprévisible. Les très gros films qui sont censés un peu redonner le sourire à toute industrie, c'est quand même une fois sur deux que ça marche en vérité. Et les valeurs ont changé, je trouve. Typiquement, vous voyez le nouveau film de Spielberg, très attendu, il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir, mais c'est pas le Spielberg d'il y a 20 ans. Hein, on est d'accord, ça fait moins événement. Donc, c'est un dialogue avec le public. Là, ça renvoie plus au poste donc, de Laurent Calonnet, qui est directeur du cinéma à l'écran. Mais c'est aussi un public qu'on finalement on peut aussi le fidéliser par ses propositions très osées pendant le festival. Cette année, on avait Patrick Wang. L'année dernière, on avait invité un autre cinéaste américain, contemporain, très méconnu, encore plus inconnu que Patrick Wang, puisque ses films n'étaient pas sortis en France. Un cinéaste qui s'appelle Dan Salit.
Oui, qui est même, je crois, informaticien de profession.
Je crois qu'il rédige des offres d'appel pour la mairie de New York.
D'accord, oui, c'est ça.
Voilà. Qui est pour moi un grand cinéaste, mais qu'on ne connaît absolument pas en France. Et c'est une proposition qui avait été comprise dans sa... Non pas sa radicalité, mais sa taille. On dit aux gens, voilà, un super cinéaste avec des films assez modestes, mais on vous propose de... en sa présence, découvrir son travail. Il y a 5 longs-métrages, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est le moment ou jamais, en fait. Et c'est quelque chose qui avait été compris, qui avait été suivi. Et c'est ce qu'on a voulu reproduire, en quelque sorte, avec Patrick Wang, sans vouloir les rapprocher tous les deux. Hein. Enfin, leur seul point commun, c'est qu'ils habitent tous les deux à New York, mais c'est vraiment des cinémas différents. Mais puis c'est reproduire un attachement à un certain cinéma de fiction qui, en fait, n'est pas si compliqué, quoi. Mais qu'on ne voit plus. Parce qu'il y a, je sais pas, je trouve qu'il y a peut-être un resserrement du champ des possibles dans le cinéma. Et donc, on a des films qui sont des fictions, comme je disais tout à l'heure, presque classiques, mais qu'on ne voit plus parce qu'il y a quelques bizarreries qui font que ça bloque. Ça bloque quelque part. Ça bloque au niveau... peut-être des distributeurs qui ne vont pas acheter le film, ça bloque au niveau des exploitants qui ont un peu peur de faire peur à leur public avec ce film un peu bizarre. Et là, le festival, c'est le moment pour le faire, quoi. Sortir des impératifs commerciaux et d'actualité.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et puis chaque festival a aussi un peu sa grammaire avec ses moments comme ça qu'on retrouve de festival en festival. Je pense par exemple aux nuits. Il y a beaucoup comme ça de festivals de films fantastiques qui proposent des nuits de films un peu nanar, un peu de série B, de série Z. Alors de manière assez étonnante, le festival de Saint-Denis ne déroge pas à la règle, mais il propose une nuit qui s'intitule « La nuit non alignée », écho mouvement des non-alignés très populaire dans les années 70-80, à l'époque de la guerre froide. Alors, quels sont ces films qu'on a pu voir pendant cette nuit non alignée, Vincent Poli?
Oui, tout à fait. Alors, la nuit non alignée, ce titre était presque une boutade, hein, mais l'idée était dès le départ de... Bon, déjà, la nuit est souvent axée sur un cinéma de genre. On a fait une nuit d'horreur, on a fait même une nuit du film porno interdit, avec que des films qui avaient été interdits en France dans les années 70. Et là, on voulait sortir d'un cinéma d'horreur qui soit uniquement occidental, même s'il y a un film anglais, mais qui est tellement bizarre et qui est tellement unique qu'on s'est dit qu'on le mettait quand même. Hein. Et par ailleurs, après j'en parlerai plus, mais c'est aussi un endroit de la programmation où on était confronté à des problèmes d'accès aux copies. Hein. Mm. Vous n'avez pas accès très facilement à des films d'horreur indiens qu'on peut voir sur Internet, mais de là les montrer dans les salles, c'est un travail, et ça demandait un argent, une somme qu'on n'avait pas. Et du coup, c'était une nuit en cinq films, avec l'idée aussi de voyager dans les époques, puisqu'on avait deux films très récents, donc Neptune Frost de Saul Williams et Anicia Uzeman, qui est très récent, et puis un film portugais, pardon, Fio de Baba Escarrat de Carlos Conceição, je prononce très mal, vous m'excuserez, qui avait un film à Locarno cette année qui n'est pas encore sorti en France, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui était un moyen-métrage de 2022. Et puis à côté de ça, House, qui est de Nobuhiro Obayashi, qui est un classique de l'horreur japonais, mais qui est un classique complètement... sous acide, hein, pour être honnête, avec une histoire de jeunes filles qui vont passer le week-end dans une maison hantée où elles se font couper la tête, etc. Sauf que on est proche d'expérimental, il y a du dessin sur la pellicule, beaucoup d'humour, une esthétique un peu manga, mais vraiment délurée, qui est un film très culte aux États-Unis et beaucoup moins connu en France. Mmh. Et on s'est dit que c'était l'occasion. On avait aussi un film, là on est plus proche du nanar, mais un nanar un peu de luxe. Cette nuit, je m'incarnerai dans ton cadavre de José Mourica Marins, qui est un cinéaste brésilien des années 60, qui a fait beaucoup de films avec des grands gourous, des victimes à sacrifier sur un autel, etc. Et en même temps, c'est très beau, une image très belle. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, donc un film anglais, The Appointment, de Lindsay Sivickers, qui est l'unique long métrage d'un cinéaste anglais, toujours en vie, hein, très âgé, qui était assistant sur quelques films de la Hammer et qui, un jour, a pu faire ce film pour la télévision anglaise, qui est un ovni total, où l'histoire d'une jeune femme qui regrette beaucoup que son père ne puisse pas venir à sa chorale. Et à partir de là, ça devient un trip assez cauchemardesque où la jalousie de cette jeune femme ou l'amour pour son père va se manifester par des chiens dans la rue, des chiens qui font très peur, un accident de voiture, des signes du destin. C'est un peu duel de Steven Spielberg à la fin. Et c'est un film qui va ressortir d'ailleurs en France cette année. Voilà, info en exclu.
D'accord.
Qui a été complètement oublié par ailleurs, qui a été vraiment... qui est ressorti, qui a été visible pour la première fois depuis moins d'un an, puisqu'il y a eu un Blu-ray sorti par le British Film Institute. Mais sinon, c'était vraiment une sorte de chef-d'œuvre oublié du cinéma d'horreur. Fantastique.
Qui va ressortir donc cette année. C'est vrai que aussi, vous saluez dans le festival l'importance des distributeurs. Il y a un distributeur en tout cas qui est mis à l'honneur, qui a été mis à l'honneur cette année, c'est ED Distribution. Vous parliez de l'accès aux copies, de la difficulté. C'est rare qu'un festival comme ça salue le travail d'un distributeur. Pourquoi ce choix? Et c'est vrai que vous travaillez avec certains en particulier. C'est peut-être une des particularités de la France, un peu ce nombre de distributeurs qui vont parfois chercher aussi des films difficiles, rares, exigeants.
Ouais, c'est vrai que c'est une partie du travail qui est plutôt souterraine en général. Hein. Le public ne connaît pas les distributeurs. Enfin, ou à peine. On voit des logos au début du film, puis on l'oublie très vite. Hein, de même que les maisons de production, je pense, hein, pour le public lambda. Mais nous, on s'est dit que c'était déjà envoyé un bon signe que de rendre hommage à un distributeur après les années qu'on vient de vivre, après le Covid, où voilà, je pense qu'il y a besoin qu'on collabore, hein, vraiment. Il faut qu'on ait des affinités. Je ne vais pas dire intellectuel, mais des affinités de goût entre exploitants, distributeurs, producteurs, pour vraiment créer des liens et accompagner mieux les films. Et ED Distribution, donc, a été fondée par Manuel Attali et Fabrice Leroy. C'est un distributeur qu'on connaît dans le milieu du cinéma comme vraiment des défricheurs de cinéma souvent un peu étrange. On peut penser au cinéma de Bill Plympton, cinéaste anglais de films d'animation. Très grotesque dans le bon sens du terme. Et on a voulu leur donner une carte blanche. Et par ailleurs, ils sont les distributeurs de Patrick Wang. Donc ça faisait sens d'avoir et Patrick Wang et ED Distribution. Les films de Patrick Wang faisant presque. Enfin, détonnent un peu dans leur catalogue et souvent sur un cinéma plus fantastique, onirique, surréaliste. Patrick Wang, c'est un peu le pendant sage de leur catalogue. Mais voilà, ça prouve bien qu'ils n'ont justement pas d'œillères, hein, s'ils vont et vers Patrick Wang et vers d'autres films. En plus, Patrick Wang, son premier film est sorti, je dirais, en 2011. Et ED a sorti le film, en fait, ils l'ont découvert très tard eux-mêmes. Ils l'ont sorti 3 ans plus tard. Ce qui est quelque chose que j'ai envie de dire, on ne verrait même plus aujourd'hui, quoi. 10 ans après, quelqu'un qui oserait sortir un film, qui a déjà eu sa carrière, hein, entre guillemets, hein, qui a déjà fait sa circulation dans les festivals, dans les salles étrangères, ça n'arrive plus trop, je crois, enfin, très très peu. Donc on voit aussi que c'est quand même des gens très courageux et qui vraiment ont un goût affirmé, hein, pour aller jusque-là. Et ils ont sorti tous les autres d'après. Donc vraiment, en plus, c'est une histoire de lien, d'amitié avec les artistes. Bill Plympton, pareil, tous ces films ont été sortis par ED. Et du coup, là, à l'occasion de cette carte blanche, vraiment, on leur a dit, vous montrez ce que vous voulez. Et on en a profité pour leur dire, n'hésitez pas à nous filer des copies 35 mm, hein, puisque voilà, on les voit quasiment plus. Il s'avère qu'au cinéma à l'écran, il nous reste un projecteur 35 mm dans la grande salle. C'est quand même assez luxueux. Voilà, on a eu 3 films, donc Liliane de David Williams, Galivant de Andrew Cotting et Cabeza de Vaca de Nicolas Echevarria. Donc des films qui travaillent la question du documentaire, qui travaillent la question d'un certain onirisme, bah, des films qui détonnent vraiment, quoi.
Qui détonne vraiment, et je pense que ça marche pour pas mal de films de la sélection des journées cinématographiques de Saint-Denis, des regards satellites. Vous nous avez donné envie, je crois, de découvrir pas mal de choses. On se donne rendez-vous l'année prochaine alors pour d'autres regards satellites à Saint-Denis,
Tout à fait.
j'imagine. Bah, merci beaucoup, Vincent Pollux, d'être
Merci.
venu sur Aligre FM nous parler du festival. Des journées dionysiennes, de cette journée cinématographique dionysienne, donc Festival de Saint-Denis. Vive le cinéma, Perspective, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouvez la semaine prochaine un nouvel épisode et nous, on se retrouve pour Perspective dans un mois et on va se quitter en musique avec Rachita Yara.
Mas é
Vous écoutez Aligre FM 93.1.